Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, bienvenue à votre sympathique émission de culture et de loisirs qui se nomme Kiosque Magazine. Nous sommes le 24 juillet 2015. Je suis en compagnie de deux charmantes jeunes filles, Geneviève Patterson et Jennifer Vignery. Bonjour mesdames.
Salut.
Je m'appelle Charleroi et de quoi est-ce que vous allez parler aujourd'hui, à commencer par toi Jennifer?
Moi je vais me concentrer sur le cinéma parce qu'il y a deux films qui sortent en salle aujourd'hui, c'est Le Gaucher et Pixel. Mm-hmm. Puis vu que Pixel sort, on parlera aussi d'autres films concernant les jeux vidéo qui vont venir en salle dans les mois à venir. Et puis je vais parler aussi de théâtre avec la pièce Petite cruauté ordinaire et Straight.
Wow, ouais, qui sait, peut-être qu'un jour on verra, parce qu'on voit de plus en plus de jeux vidéo adaptés au cinéma, on verra peut-être du...
Exactement.
Adapté au théâtre, peut-être.
On va en parler tout à l'heure.
Est-ce que tu nous en parles, Geneviève, aujourd'hui, de ça?
Non, moi je vous parle de musique estivale et plus encore, d'une exposition photo hors du commun et de Hobbit.
Bon, bien, on a hâte d'en entendre parler. Moi, je vais vous parler du Festival d'opéra de Québec qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Je vous parle aussi du Festival 5 Sens qui aura lieu à Trois-Rivières. Et on se déplace à Saguenay pour le Festival international des arts de la marionnette et pour une exposition sur l'histoire de la médecine. Mais tout d'abord, Jennifer, tu vas nous casser la gueule avec un article percutant.
Eh ben oui, on va pas parler de Rocky Balboa parce que c'est déjà fait, ça oui. a déjà été joué par Stallone. Là, on va se concentrer sur un autre film qui va effectivement parler d'un boxeur, c'est Le Gaucher, qui relate le parcours difficile de Billy Hope, un champion de la catégorie mi-lourd qui perd tout ce qu'il a construit avec sa carrière quand sa femme meurt dans un accident tragique. Sombrant dans l'alcool et perdant la garde de sa fille, il devra retourner sur le ring pour reprendre son titre et son honneur. C'est Maxime Demers qui nous en parle dans le Journal de Montréal du vendredi 17 juillet. Après avoir perdu beaucoup de poids pour son rôle dans Le Rôdeur, Jack Gulligan a fait le cheminement inverse en gagnant une quinzaine de livres de muscles pour se transformer en boxeur. Pendant 6 mois, il s'est enfermé dans des salles de gym pour s'entraîner 2 fois par jour, 7 jours par semaine. Il a aussi travaillé avec plusieurs boxeurs professionnels. « J'ai appris beaucoup de choses en observant ces professionnels, mais la chose qui m'a le plus frappé, c'est à quel point il faut être sensible pour être un bon boxeur, dit-il. Il faut être dur, oui, mais ça prend une sensibilité sur le ring pour observer le comportement de son adversaire. C'est un instinct qui se développe. » Jack Gulligan et Antoine Fuqua ont également passé beaucoup de temps à analyser des combats et les comportements des boxeurs sur le ring. Le style et l'approche de Miguel Cotto ont notamment eu une énorme influence sur moi, glisse l'acteur. Fait intéressant, les scènes de boxe du film ont toutes été filmées pendant les 2 premières semaines et demie du tournage, ce qui a permis à l'acteur de se préparer comme s'il avait un véritable combat à livrer. On a réellement abordé le premier jour de tournage comme si c'était un combat, explique-t-il. On a augmenté l'intensité des entraînements, j'ai perdu du poids comme s'il y avait une pesée officielle, j'ai fait bander mes mains. Il y avait beaucoup d'anticipation autour de ces premiers jours de tournage et je crois qu'on le sent à l'écran. L'acteur a aussi insisté pour se battre pour de vrai sur le ring, quitte à recevoir quelques coups sur le nez. C'était important pour moi de me battre réellement afin de sentir la peur sur le ring. La peur est une source de motivation chez les boxeurs. Je voulais vivre cette expérience au complet. Donc je rappelle que Le Gaucher va prendre l'affiche dès aujourd'hui, donc le 24 juillet, et met également en vedette Rachel McAdams, Forest Whitaker et 50 Cent.
Je combats le spleen.
avec l'inspiré. Je combats le spleen. Je t'attends rue des Martyrs. Hypnotisé par tes yeux, débridé, bridé, libéré de classe. Je cours sur place si tu savais comme tu me manques. Quand je suis seul à la planque, j'ai presque l'air d'une mazette. L'air d'opérette à la radio prend une tournure de drame. La disette rend marteau, il me vient une envie obscure et je clame. Je combats le spleen avec l'inspiré. Je combats le spleen. Je t'attends rue des Martyrs. Sans te voir partir, je sens ton arrivée. Elle se fait sentir, c'est un
d'entendre Steffi Choc avec Je combats le spleen. C'est maintenant le temps de parler du Festival d'opéra de Québec qui est là pour sa 5e édition et ça se déroule du 23 juillet au 5 août. Il y a un papier dans Le Soleil écrit par Richard Boisvert qui parle de la pièce de Robert Lepage, L'amour de loin, la mère imaginaire de Robert Lepage. C'est publié le 23 juillet dernier. Il écrit que les médias ont eu droit à un tout petit aperçu de ce qui attend le public lors des représentations de L'amour de loin. Ça, c'est un opéra écrit par Kaya Sarraio, qui est mise en scène par Robert Lepage et présenté en primeur dans le cadre du Festival d'opéra de Québec. Ça, c'est à compter du 30 juillet, ce spectacle-là. Ah, on entend une petite musique. Vous allez entendre aussi Jennifer chanter peut-être là au courant de...
Non, je vais laisser Geneviève faire à la meilleure tonalité, tu vois.
Ben, ce spectacle-là, je vais revenir à mon article, si vous voulez bien. Ça raconte l'histoire d'un troubadour du 12e siècle qui chante les vertus d'une femme lointaine qu'on dit belle sans l'arrogance de la beauté, noble sans l'arrogance de la noblesse et pieuse sans l'arrogance de la pitié.
Ah, ça pourrait être moi, je pourrais très bien chanter ça.
Eh bien, le personnage apprend par un pèlerin que la femme dont il rêve vit de l'autre côté de la mer. Obsédé par le désir de raconter cet amour idéal, Geoffrey, ce personnage, ne connaîtra plus le repos. Ça a été créé en 2000 à Salzbourg, puis c'est une mise en scène originale de Peter Sellers qui a été produite à plusieurs reprises. L'œuvre est souvent montée en faisant appel à une vraie eau sur scène. Cette fois-ci, on a recours à des milliers de LED, ces petites ampoules minuscules. Alors, vous pourrez voir, on dit, une représentation de l'eau, des effets de vagues. Alors, ça a l'air que c'est super impressionnant. Et ce qui est encore impressionnant, c'est que ce spectacle-là, coproduit avec le Metropolitan Opera de New York, ça réunit 3 solistes, 50 choristes, 5 acrobates marionnettistes, 75 instrumentistes, un chef d'orchestre. Avec l'équipe technique, ça fait 150 personnes par représentation qui sont là pour nous émerveiller. Ouais. C'est assez épatant, ça a l'air. Et le metteur en scène a par ailleurs tenu à saluer le courage et l'audace du Festival d'Opéra de Québec. Il dit que décider que le pôle du festival de cette année soit une œuvre contemporaine, c'est très risqué. Mais il faut le faire parce que le but de l'entreprise, ce n'est pas d'aller chercher le public de Québec, mais de partout. On sait quel impact ça a sur le tourisme à Québec. L'idée, c'est de créer une habitude et une réputation. Si vous voulez y aller, c'est le 30 juillet, le 1er, le 3 et le 5 août également. C'est à la salle Louis Fréchette au Grand Théâtre. Et dans le cadre de ce Festival d'Opéra de Québec, vous pourrez assister, j'ai fouillé, là, il y a un événement extérieur gratuit qui s'intitule La Brigade Lyrique. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Ça réunit les artistes de la relève qui font des extraits d'opéra, de répertoire ou même d'opérette. Alors, ça se déroule jusqu'au 18 juillet, ainsi que le 30-31 juillet, 1er et 2 août. Et notez que le 1er août, ce sera en concert avec les grands feux de l'Auto-Québec. Ça risque d'être assez impressionnant. Et maintenant, Geneviève, de quoi tu vas nous parler? Là, je suis un peu curieux.
Alors, je vous parle de photos. C'est un article que j'ai déniché ce matin dans le cahier week-end du journal Métro.
Oui, c'est assez flamboyant, toutes ces images-là. Hein?
Oui. Donc, l'article s'intitule « Il n'y a pas photo » de Natalia Wisoka. Donc, tout le monde peut prendre une photo, mais encore faut-il lui donner une signature, un contexte, un impact, sans déformer la réalité. Donc, dire quelque chose sur notre époque. Présenté sous le thème du nouveau photojournalisme, le photoshow annuel de Vice propose de plonger dans l'univers des reporters pros de l'image, ceux qui se tiennent loin des clichés de brunch, de coucher de soleil, bref, les photos qu'on peut retrouver sur Instagram. Et s'il y aura dans cette expo des images d'animaux, ce ne seront certainement pas celles d'un chat jouant du piano avec ses pattes. Alors, chaque année, le Vice Photoshow choisit un thème. Il y a une nature morte, puis des collaborations. Alors, cette année, comme le disait l'intro, c'est le nouveau photojournalisme. Alors, pour l'occasion, le média alternatif au statut culte a conclu un partenariat avec Magnum Photos, oui, cette renommée coopérative photographique qui a été créée en 1947 par, entre autres, nul autre que Robert Capa et Henri Cartier-Bresson. Larry Towell, premier Canadien à faire partie de Magnum, agit à titre de commissaire de l'Expo 2015. À ses côtés, on retrouve un enfant de Vice, Raphaël Katigbach, rédacteur en chef. Résident à Toronto, mais originaire de Montréal, il souligne que la ville lui manque. Raphaël confie suivre de près, année après année, la sélection du World Press Photo. Il se dit également impressionné par le travail de Brett Gunlock. Alors rapidement, parce que c'est un article quand même long, je vais décrire les photos qu'on retrouve dans l'article. Elles sont magnifiques. Tout d'abord, il y a un bouquet de fleurs séchées sur un banc rouge, on dirait un banc d'église en bois un peu verni, usé. Il y a une photo de guerre aussi, un camion en feu avec un homme qui court. Il y a un journal, en fait un cartable avec des feuilles mobiles, des feuilles lignées. Il y a une photo avec...
On dirait un reflet de vitre.
Un reflet de vitre, exactement, Charles. Et il y a également, ici, on dirait un artiste sur une scène avec plein de petites lumières. Justement, peut-être que ce sont des LED également, comme Charles disait dans son article plus tôt, avec un artiste qui tient un bouquet de roses rouges dans ses mains. C'est tout simplement magnifique. Mm-hmm. Alors oui, Gatigbach l'accorde, tout le monde ou presque a un appareil photo et tout le monde peut être là avec les gens, mais tout le monde n'a pas l'œil. Pouvoir appuyer sur un déclencheur ne signifie pas forcément savoir faire de manière experte. On est bombardé de photos d'Instagram, de Facebook, de tout. Ces images font exploser nos téléphones et nos globes oculaires. Mais dans cette avalanche, les photoreporters se distinguent, juge-t-il, par cette capacité à toujours pointer leur objectif et attirer les regards sur ce qui est pas important ou du moins ce que eux jugent important. Ils permettent de dire « Regardez, c'est là, là-bas ». Parce que nous sommes assommés de photos de plats, de chats, de jambes sur la plage. Donc, on a besoin d'eux pour nous dire « Hey, ces photos-là sont cruciales, puis c'est celles-là que vous devriez porter attention. Mm-hmm. » Donc, pour cette expo, la rédac-chef qui a été épaulée par Larry Towell a fait attention à ce que lui montraient ces artistes canadiens. Donc, vraiment, pour terminer, Raphaël Katigbach dit « Je trouve important d'organiser des expositions de photos pour forcer les gens à sortir la tête de leur cellulaire et de leurs ordi afin de faire face à une œuvre d'art dans sa forme physique. C'est la même raison pour laquelle il aime les photos dans les magazines. On peut s'en rapprocher beaucoup plus qu'une image sur un écran. C'est au Centre PHI, donc PHI, jusqu'au 31 juillet et l'entrée est libre. Alors, profitez-en tout le monde. »
Le retour au cinéma, excuse-moi, qu'est-ce que tu allais dire?
Non, j'allais justement vous demander si quand vous étiez jeune, ou peut-être en ce moment, est-ce que vous jouiez aux jeux vidéo?
Ah non, moi, ma mère me disait que ça ramollissait le cerveau, alors j'avais très peur des jeux vidéo.
Parce que, en effet, à l'image des Donkey Kong, Pac-Man et autres Space Invaders qui se voient offrir une seconde vie dans Pixel, un film qui sort en salle aujourd'hui, les jeux vidéo ont toujours inspiré Hollywood. Et c'est loin d'être fini, comme en témoigne une liste non exhaustive que nous propose Malik Cocherel dans le journal de Montréal, car plein de projets sont en cours d'adaptation. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le français Ubisoft, troisième éditeur indépendant de jeux vidéo au monde, annonçait en 2011 la création d'Ubisoft Motion Pictures, sa mission, adapter ses propres jeux au cinéma, avec comme premier projet d'envergure la transposition au grand écran d'Assassin's Creed. Le jeu développé à Montréal et lancé en 2007 s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde et reste à ce jour l'un des plus gros succès. Le film, annoncé pour le 21 décembre 2016, pourra compter sur Michael Fassbender dans la peau du héros, mais aussi sur la Française Marion Cotillard et l'acteur Michael Williams, ancien des Boardwalk Empire. Le scénario devrait rester très fidèle au jeu. Mmh. On y suivra les exploits de Damon Miles sur fond de guerre secrète entre la confrérie des assassins et l'ordre des Templiers. En plus d'Assassin's Creed, Ubisoft travaille à l'adaptation d'une autre de ses licences les plus rentables, Splinter Cell. C'est Doug Liman, réalisateur de La mémoire dans la peau, qui a été chargé de porter au cinéma cette saga, créée en 2002 par le prolifique auteur des romans d'espionnage Tom Clancy. Et c'est nul autre que Tom Hardy, vu récemment dans Mad Max, qui a été choisi pour le rôle de Sam Fisher. Autre jeu à grand succès et grande fierté de la firme californienne Blizzard Entertainment, Warcraft aura également droit à son film. Après de longues années d'attente, cette adaptation annoncée dès 2006 devrait enfin voir le jour le 25 mai prochain. Je pense qu'il y en a beaucoup qui
attendent
sont impatients.
Oui.
Et justement, en attendant, d'autres jeux vidéo plus anciens pourraient débarquer au cinéma. Le site Deadline vient d'annoncer que Dwayne Johnson allait produire et jouer le rôle principal de l'adaptation de Rampage, jeu d'arcade culte des années 80. Et vu qu'on parle des années 80, je rappelle que le film Pixel donc, sort en salle ce vendredi et parle d'une histoire complètement abracadabrante. En effet, en 1982, un championnat de jeux vidéo est filmé et les images sont envoyées dans l'espace dans l'espoir qu'une civilisation extraterrestre, amusée par ce qu'elle voit, nous contactera. Et 30 ans plus tard, les extraterrestres ont bien pris connaissance de ces images, mais il y a un léger hic. Ils ont pris des parties de ces jeux classiques comme une déclaration de guerre et ils attaquent la guerre en prenant la forme de ces personnages. Donc un soir, la base militaire américaine est attaquée par ce qui ressemble à des vaisseaux issus tout droit de Space Invaders. Et de plus, des ennemis du genre particulier transportent des humains à bord de leur vaisseau en les pixelisant. Voilà. Donc ça promet d'être assez drôle. Ça sort en salle dès aujourd'hui.
Merci.
Oh,
Et c'était Chelsea Barat qui nous a fait le Philo's Groove. Voilà, mm-hmm. Bon, c'est une vraie découverte musicale, hein, merci Rémi.
Oui, oui.
Charles, tu vas nous parler du Festival des Cinq Sens.
Oui, exactement. C'est Marie-Josée Montmini dans Le Nouvelliste qui nous en parle. C'est publié le 3 juin dernier. Ça s'intitule « Patrice Michaud, Patrick Normand et Marjo au Festival des Cinq Sens ». Alors, c'est quoi ce festival-là? C'est la 8e édition que ce festival a lieu dans la MRC de Bécancour et ça se tiendra du 29 juillet au 2 août à Sainte-Sophie-de-Lévrade. Les festivités incluent des spectacles, du cinéma plein air ainsi que des activités aussi diversifiées qu'une compétition d'hommes forts, un bingo, un souper au Michoui, un parcours de course et une compétition familiale regroupant 10 défis. Alors vous voyez, on y va vraiment dans les cinq sens, là. Le festival débutera par une soirée de cinéma extérieur mercredi le 29 juillet, mercredi qui s'en vient. Le lendemain, pour la soirée d'ouverture officielle, Amtrio présentera ses compositions avant que le groupe hommage au colloque « Passe-moi la poque » prenne la scène. Des feux d'artifice et l'animation du DJ Christo concluront la soirée. Vendredi le 31 juillet, une épluchette de blé d'Inde sur l'heure du midi précédera un bingo et un spectacle du raconteur Marc-André Fortin. En soirée, les animateurs de musique seront ravis de voir et d'entendre successivement Len Roover, Joseph Edgar, Patrice Michaud et Jean-François Bastien. Des exposants seront sous le chapiteau le samedi 1er août, alors que se déploieront des activités de paintball, l'accès à un labyrinthe géant ainsi que la compétition d'hommes forts professionnels. Ça, c'est prévu à 13 heures. Le souper au Michoui sera suivi du spectacle hommage à Johnny Cash. Puis, c'est fait par le groupe The Porters. Puis, des passages sur scène de Marjo Swamp, qui fait un hommage à CCR et Junior Grondin. La journée du dimanche sera, elle, consacrée plus particulièrement à la famille. Le Marathon des Balles des Couleurs, un parcours de 5 km, sera lancé dès 9h30. Un brunch sera servi à 11h pour se reposer et un spectacle de Karl le Magicien est au programme à 1h. Les familles pourront aussi relever 10 défis et mériter des prix. L'auteur, compositrice, interprète Élise Aumont et Claudel, en formule trio, se mettront sur scène avant le spectacle de Patrick Normand et ses musiciens pour clore le festival. Pour plus d'informations, si vous avez accès à Internet, c'est festival5sens.qc.ca.
Dans la presse du 18 juillet dernier, un article super intéressant au niveau musical. En fait, la presse a demandé à 4 de ses journalistes forts de faire un top 10 musical, en fait, des meilleurs albums qui sont sortis depuis le début des années 2010. Donc, souvent, on parle des années 90, mm-hmm. les années 2010. Donc, il y en a 4. Il y a Émilie Côté, Alain Brunet, Philippe Beauchemin, Alain de Repentigny. Rapidement, j'en ai choisi 2 pour vous. Le top 10 d'Émilie Côté et d'Alain de Repentigny. D'abord, Émilie Côté, elle met en numéro 1 Bon Hiver avec mm-hmm. l'album Bon Hiver. Arcade Fire avec The Suburbs. Rapidement, en 8e, par exemple, il y a Lana Del Rey qui est sortie en 2014 avec Ultra Violence. Je perds mon anglais ce matin. Et rapidement, Alain de Repentigny, numéro 1, Louis-Jean Cormier avec Le 13e étage. Oui, Serge Fiori en 3e position avec son album éponyme sorti en 2014. David Bowie, The Next Day en 2013 en 7e position. Richard Desjardins avec L'Existoire en 2011. Et Adele avec l'album 21 en 2011. Donc vraiment, un bijou d'article parce que c'est non seulement des top 10 de musique, de top 10 d'été, mais c'est intemporel. Donc, voilà. Merci.
Merci, Geneviève. On se laisse un petit peu, là, le temps d'une courte pause. Restez des nôtres, ce sera pas long, là, le temps de,
à tout de suite.
De prendre un petit verre d'eau.
Un petit verre d'eau, un petit café, là, 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 là.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et nous voici de retour pour cette deuxième partie d'émission. Et du coup, moi, je vais vous parler... allez, on part en théâtre. Et je vais vous parler du théâtre du 450 qui récidive cet été dans le Vieux Longueuil avec une nouvelle création, Petite Cruauté Ordinaire, où quatre comédiens se donneront la réplique à travers différents tableaux où fausses apparences, malaises et situations malsaines promettent d'être au rendez-vous par le biais de rencontres entre amis. Louise Bourdonnais nous en parle dans le Journal de Montréal du vendredi 17 juillet. La mauvaise communication engendre souvent des malentendus. C'est tout le moins ce que nous démontrera la pièce « Petite cruauté ordinaire » qui prendra l'affiche dans quelques jours. Le manque de communication ou les non-dits provoque parfois des petites cruautés ou des situations absurdes, concède l'auteur Véronique Pascal, qui figure également parmi la distribution. C'est souvent dans des situations banales, toutes simples, que cela se produit. L'auteur ajoute également que les apparences sont souvent trompeuses et qu'il ne faut pas toujours s'y fier. La pièce nous fera également voir que certaines relations amicales peuvent déraper et devenir malsaines, contre notre gré, tandis que la logique nous échappe. Les situations peuvent même se diriger vers la perversité, précise la comédienne. Ce sont des jeux qui deviennent pervers parce que toute la vérité n'a pas été dite. L'auteur s'est inspiré des personnages et de son entourage et des faits vécus pour écrire sa pièce. Le spectacle compte 8 courtes pièces où des mises en situation seront jouées parfois en duo et tantôt à 3 ou à 4. Parmi ces sketchs, l'un s'intitulera « Romance ». C'est une date entre un gars et une fille. On souhaite de part et d'autre que les choses fonctionnent, mais malgré tous les efforts, ce sera un rendez-vous manqué, raconte Véronique Pascal. On demeure dans la banalité où des situations se produisent, rappelant le quotidien. C'est certain que tous les spectateurs se reconnaîtront à travers quelques maladresses, même si les histoires sont interprétées par de jeunes adultes entre 25 et 35 ans. On comprendra également que de grandes attentes sont souvent synonymes de déception. Les attentes sont souvent trop grandes, fait remarquer l'auteur qui précise également qu'on s'en prend trop souvent à ce qu'on aime. Des revirements de situation sont aussi à prévoir, on le constatera notamment dans le tableau qu'on nomme « Persécution ». L'histoire se joue à 3 personnes où de très vieux amis se retrouvent dans un chalet, raconte la comédienne. Tout va complètement déraper. Au final, on souhaite que la pièce nous amène à nous questionner sur certains de nos comportements qui jouent contre nous. On retrouvera entre les 8 sketchs le même fil conducteur, celui de l'espoir. Malgré le fait que les choses tournent souvent mal, il y a toujours de l'espoir que tout aille bien, conclut-elle. Donc je rappelle que l'auteur de Petite cruauté ordinaire, c'est Véronique Pascal, et que c'est au théâtre du 450, théâtre de la Chapelle à Saint-Antoine à Longueuil, du 31 juillet au 30 août.
En début d'émission, je vous parlais de Hobbit. En fait, vous pouvez passer une nuit dans une maison de Hobbit cet été.
Ah, c'est pas vrai, waouh!
Je te jure.
C'est possible, ça?
C'est possible.
Est-ce qu'il y a des vrais Hobbits qui nous accueillent?
Je sais pas, faudrait y aller.
J'espère.
Moi, je vais y aller un jour. Alors, pas besoin d'être de petite taille ou d'avoir des pieds poilus pour apprécier la maison de Hobbit, de la petite entreprise Les Toits du Monde à Nomineng dans les Laurentides, un endroit fort sympathique où il est agréable de passer la nuit. C'est un article d'Andréane Chevalier dans le journal Métro du mercredi 15 juillet. Adapté aux dimensions humaines, cet hébergement s'inspire de l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il y a une carte de la Terre du Milieu qui orne le mur de l'espace-salon. Un interrupteur de lumière est camouflé dans une espèce d'œil de Sauron au mur. La table de cuisine porte des inscriptions dans une écriture de type elfique. Les boiseries, les fenêtres arrondies, le toit végétal, plusieurs éléments recréent cet univers qui passionne beaucoup de gens. Il faut marcher près d'un kilomètre en forêt depuis le stationnement pour atteindre Hobbitla, la maison de Hobbit, qui a été inaugurée il y a quelques mois seulement et qui est accessible toute l'année. Une petite randonnée bien agréable, malgré les moustiques au moment de notre passage en juin, qui permet d'apercevoir les autres hébergements qui offrent les toits du monde. Donc, il y a également une yourte, un tipi et une maisonnette dans les arbres. La maison de Hobbit est assez grande pour accueillir confortablement 4 personnes. On n'a qu'à apporter son sac de couchage, sa lampe de poche, sa serviette et un peu de nourriture.
Est-ce qu'on parle de Hobbit, là, 4 personnes, ou c'est vraiment...
Des quatre grandes personnes, des humains. Oui. Donc, on a donc son sac de couchage, oui. Il y a aussi une petite... Dans la maisonnette, il y a une petite salle de toilette à compost et sans odeur, une douche rudimentaire. Donc, attention, il faut chauffer l'eau ou laisser le sac au soleil puis pomper pour créer de la pression. Donc, il y a aussi également un petit poêle à bois. Bref, c'est vraiment bien installé. La nuit à la maison d'Hobbit a été offerte à la journaliste. Pour plus d'informations, le site Les Toits du Monde, donc Les Toits au pluriel, dumonde.ca. Et puis, Métro, par contre, dit ce qu'il a moins aimé, c'est que le poêle du camping au propane pour faire la cuisine à l'intérieur de la maison. Donc, ça, c'est un peu désagréable à cause de la fumée et l'absence de rideaux-fenêtres. Donc, peut-être apporter des draps supplémentaires pour ceux qui en ressentent le besoin de cacher les fenêtres. Donc, voilà, belle. Ah oui, combien ça coûte? Le prix, c'est 150 $ la nuit pour une ou deux personnes, deux humains. Mm-hmm. Et 20 $ la nuit par personne supplémentaire.
Est-ce qu'il y a des coûts pour Hobbit?
Non, il y a 20 $ par nuit par personne supplémentaire au-dessus de 16 ans. Donc, quand tu es un ado, est-ce que c'est considéré comme un Hobbit ou un demi-humain? Ben, c'est moins cher. Donc, allez-y.
Merci, Geneviève.
De rien.
Mana. Mana. Mana.
On entend des extraits du Muppet Show. Pourquoi est-ce qu'on vous met cette petite instrumentale-là? C'est parce que à Saguenay, il y a le Festival international des arts de la marionnette de Saguenay. Daniel Côté a écrit un papier dans le quotidien le 4 juin dernier qui s'intitule « Une programmation ambitieuse ». Elle l'est. Même si le théâtre de la rubrique renonce à monter un spectacle à grand déploiement, un concept qui a mené l'événement au bord de la faillite en 2013, la programmation du FIAMS sera relevée cette année. Le thème de la boîte à surprises exploitée sur ces affiches reflète le contenu offert du 21 juillet au 26. Les directeurs artistiques Danny Lefrançois et Benoît Legrandeur ont sélectionné des productions recoupant toutes les pratiques liées à la marionnette. Ils ont aussi atteint une forme d'équilibre entre les œuvres destinées aux enfants et aux adultes, parce que oui, c'est un préjugé de croire qu'on peut s'émerveiller seulement en étant enfant devant ces objets. Les adultes auront autant de créations à se mettre sous la dent au cours de la 13e édition que chez les enfants. Les directeurs artistiques à la rencontre de presse avaient de bonnes nouvelles à communiquer. Il s'agissait du volet international qui amènera la France, le Mexique, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne à représenter leurs spectacles qui ont suscité beaucoup de curiosité, dit-on. Prenons L'homme content de rien, qui montre un type devant une table. Il y a plein de nourriture, mais il pose un drap dessus et voici ce que dessine la silhouette, un cadavre. C'est très drôle. Je n'ai jamais vu Benoît rire autant, raconte Danny Lefrançois, qui a découvert cette pièce belge au Festival des marionnettes de Charleville, Misiréès. Une autre production à surveiller est celle du diagnostic Hamlet. Un regard espagnol sur le personnage imaginé par Shakespeare. Sur scène, un comédien côtoie des marionnettes grandeur nature avec lesquelles il interagit. À la fin, on ne sait plus qui manipule qui, note Danny Lefrançois. La mort évoquée dans L'homme content de rien constitue également le thème privilégié des artistes de Memento Mori, une coproduction du théâtre de la Tortue Noire que dirige Danny Lefrançois, ainsi que, la compagnie mexicaine Luna Morena. Elle est née là-bas et sera proposée pour une première fois au Québec. Dans la même foulée, les enfants aimeront Conte Arbour du théâtre Bouche décousue qui les plongera dans l'univers de l'artiste de Madeleine Arbour. Ils apprécieront aussi Le Grand Nord qu'a illustré une jeune Québécoise à propos d'un grand voyage fait à travers le Québec. Il y aura aussi Le Carré de sable qui, dans la même veine, exploite les cinq sens. Ça, c'est par la troupe Tenon Mortaise. De plus, des spectacles en salle, au nombre de 20, le festival a concocté une programmation extérieure qui aura pour cadre le parc de la Rivière au Sable. Pendant 3 jours, on y découvrira des productions souvent étonnantes, comme ce Golden Gala de la compagnie 1000 Chevaux-Vapeur. C'est un gala de lutte entre objets, résume Danny Lefrançois. Complétons ce bref survol en signalant que le sculpteur Kevin Titzer occupera une salle d'exposition du Centre des arts de la culture de Chicoutimi. Il a imaginé une troupe de cirque ambulante dont on aurait trouvé des vestiges, un concept qui fait rêver lorsqu'on connaît le génie de cet homme pour créer des atmosphères un bout de bois à la fois. Alors le festival, je le répète, c'est à Saguenay, c'est du 21 au 26 juillet.
Grinçante et juste assez subversive, la pièce Straight, présentée dans le cadre du ZooFest, met en scène 2 amis de longue date, un pari loufoque et quelques malaises bien placés. Marie-Hélène Chartrand nous en parle dans le Journal de Montréal du mercredi 22 juillet. Après avoir voyagé pendant 7 ans, Ferdinand débarque chez son vieil ami, le très sédentaire et très marié Louis. Comme une tornade, sa présence confronte ce dernier et provoque de grandes remises en question. Le bonheur confortable de Louis auprès de sa femme le détournerait-il d'expériences plus grisantes ? Est-il en train de passer à côté de sa vie ? Entre alors en scène une actrice porno amateur qui le mettra au défi de tourner une scène érotique et de la présenter dans un festival de films porno artistiques. Ferdinand et Louis conviennent donc de tourner une scène olé olé homosexuelle pour prouver qu'ils ont du courage et une ouverture d'esprit à toute épreuve. Au-delà de son aspect humoristique, la pièce pose de réelles questions sur l'amitié, la sexualité, sa signification, voire son utilisation, et sur l'insatisfaction chronique de certaines personnes face à leur vie. La plupart du temps, on remarque que ceux qui jouissent d'une certaine stabilité aimeraient avoir plus de piquant dans leur vie et inversement. La mise en scène de Jean-Simon Traversy est efficace et épurée. Il n'y a aucun décor, seulement la rangée de spectateurs autour de la scène. Ici, tout repose sur l'efficacité du jeu des acteurs, Guillaume Tellier qui interprète Louis, Benoît Moffett qui jouera Ferdinand, Marie-Claude Guérin, Morgane, et Anne Trudel, dont l'actrice porno, un pari gagné. Avec Straight, on passe assurément un bon moment et on rit autant qu'on réfléchit. La pièce est présentée jusqu'au 28 juillet au théâtre La Chapelle.
Je dis à ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui, le jour, la nuit, sans cesse et sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Avec toi, te faire crier comme les stars du X au cinéma. Recommencer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 fois. La vie est morte, la vie est sale, quand on joue les méduses glaciales. Quand on est deux yeux dans les yeux, allécher des jours malheureux. Les soirs de pluie, les matins grimains, sous le soleil de midi. Jamais les bombes, les grenades, ni la suie me feront sortir du lit. Do I sing, do I do? I got the fire, so I'm making my dreams come true. Nude, I'm just a powerless fool. But I like you open so I can see the view. Crude, how did they live, how did they breathe? The gift of penetrating means nothing but a plan to see in need. Just feels good in your body too. What if I quit walking on you like a pizza too? Look into my eyes, I said look. Ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesser, sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour.
C'est bien mieux de faire l'amour, c'est pas du tout le titre de la chanson, mais en tout cas c'est ce que Pierre Lapointe dit dans La sexualité, voilà le vrai titre de la chanson. Et on part tout de suite en médecine, je crois que tu...
Oui, exactement. Est-ce que tu seras en mesure, Jennifer, de nous dresser un portrait en une minute de l'histoire de la médecine au Québec?
Oh, ma foi, non, ouais. C'est pour ça que l'exposition a lieu et que
exactement,
tu vas nous en parler.
Ben, c'est ça, c'est très méconnu, l'histoire de la médecine. Eh bien, Roger Blackburn, dans Le Quotidien, nous dresse un portrait de cette exposition qui aura lieu à Chicoutimi. Son article s'intitule « L'histoire de la médecine dans la région ». C'est publié le 21 juillet dans Le Quotidien. C'est le monastère des Augustines de Chicoutimi qui présente une nouvelle exposition intitulée « La médecine et son évolution » à partir de la collection des Sœurs de la Miséricorde de Jésus qui ont fondé 12 monastères-hôpitaux au cours des trois derniers siècles. Aménagée dans trois salles, l'exposition montre l'évolution de la médecine par des artefacts et des photos réalisées à partir de la collection médicale de la communauté religieuse arrivée à Chicoutimi en 1884. Dans la première salle, on peut admirer des planches d'herbier réalisées en 1950 par Sœur Colette Gauthier. on peut y voir une branche de thuya occidentale, du cèdre, dont le feuillage était très riche en vitamine C. Les Autochtones ont infusé cette plante pour guérir le scorbut des premiers explorateurs européens. Les artefacts sont encore dans un excellent état de conservation, note-t-on. Les artefacts du 17e et 18e siècle prêtés par l'Hôtel-Dieu de Québec et aussi l'Hôpital général de Québec illustrent cette époque qui a vu naître la médecine ici vers 1693. Le mortier, des pots de pharmacie, la balance et la lancette font partie des objets qui ont marqué les débuts de la médecine au Canada. Dans la deuxième salle, on raconte la fondation de trois nouveaux monastères-hôpitaux à Québec, Chicoutimi et Lévis. Parmi les artefacts présentés, notons un des coffres remplis d'objets de toutes sortes, dont une pharmacie complète arrivée à Chicoutimi le 24 mai 1884, faut que je précise, pour installer les bases de l'hôpital de Chicoutimi dans l'hôpital de la Marine. Le 1er janvier 1885, les religieuses de l'Hôtel Dieu Saint-Vallier avaient soigné 23 séminaristes, 6 matelots et 23 autres malades et infirmes, peut-on lire sur de nombreuses affiches d'information qui accompagnent l'exposition. Dans la troisième salle d'exposition qui illustre le 20e siècle, cette fois-ci, au chapitre des objets de valeur, des objets, le visiteur sera curieux de découvrir les premiers appareils à rayons X, des objets de laboratoire, de chirurgie cardiaque, de dentisterie et d'ophtalmologie, un des premiers masques servant à l'anesthésie. Cette partie de l'exposition est la plus généreuse et diversifiée tant par la qualité que la quantité des objets, bien sûr, parce que c'est près de nous en ce moment. Il s'agit de la 31e exposition présentée au monastère par le conservateur Luc Gagnon. Rappelons que la collection des Augustines de Chicoutimi compte environ 10 000 objets. L'exposition est accessible gratuitement 7 jours sur 7, de 8h à 18h. Et Monsieur le conservateur Luc Gagnon nous informe qu'à compter du 1er août, la collection des sœurs sera transférée au monastère de Québec où l'ancien cloître des Augustines a été transformé en hôtellerie d'expérience. L'endroit compte 33 chambres authentiques et 32 chambres contemporaines. L'endroit comptera également un musée permanent supporté par une collection de 400 000 artefacts, 40 000, mais c'est quand même impressionnant, représentant 4 siècles d'histoire. Pour y aller, donc, c'est à Chicoutimi, c'est gratuit, allez-y.
J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'Esculape et le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette, durant les moments creux dans certaines gazettes, systématiquement, les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous les feuilles de chou. Or, lassé de servir de tête de massacre, des contes à mourir debout qu'on me consacre, moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avance et je crie toute la vérité. Toute la vérité, messieurs, je vous la lis, ivre, si j'ai quitté les rangs des plus de 200 livres, c'est la faute à Mimi, à Lisette, à Ninon, et bien d'autres, j'ai pas la mémoire des noms.
Maintenant, on est en brève. Écoutez, j'ai une nouvelle amusante. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça a filé sur les réseaux sociaux. C'est un Néo-Zélandais, Nigel Richards, qui a remporté la compétition mondiale de Scrabble de langue française qui se déroulait lundi dernier en Belgique, même s'il ne parle pas français. Étonnant, n'est-ce pas?
Wow. Hein?
Une des premières dans l'histoire de ce jeu. L'homme de 49 ans a été notamment champion du monde du Scrabble en anglais en 2007, puis en 2011. Puis il s'est dit, je vais apprendre le livre des mots acceptés dans ce jeu, des mots de 2 à 10 lettres, et il les a appris par cœur. À l'issue de sa victoire, il a eu droit à une ovation debout, mais il a dû faire appel à un traducteur pour remercier le public.
Présentée dans le cadre du festival Juste pour rire en 2014, la comédie à succès Ma première fois est reprise pour une énième fois. Ce nouveau retour est tout d'ailleurs sujet de certaines blagues lancées sur scène par le rigolo Jonathan Roberge. Le barbu humoriste, qui fait partie des quatre interprètes rapportant une mosaïque de témoignages, semble particulièrement à l'aise devant un public, et c'est avec un naturel désarmant qu'il raconte des anecdotes drôles, tragiques ou complètement tordues, encore une fois. C'est à voir ce soir et demain à 20h à la Maison des Arts de Laval.
Pour ceux qui, comme Jennifer, aiment chanter l'opéra, ben vous pourrez chanter au micro ou simplement vous joindre votre voix à celle de la foule, aux héros du karaoké. C'est une activité parfaite pour vous. Experts et amateurs sont conviés au Parc du Portugal pour de grands événements de chant de toutes sortes. Ça, c'est dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. C'est ce samedi, le 25 juillet. Ce sera aussi là, le 29 août et le 25 septembre, de 15h à 19h, et c'est gratuit.
Pour tous les amoureux de la culture latino-américaine, il ne faut pas manquer demain le festival Cubain Ando, un événement coloré qui fera danser les petits et les grands. Il y aura des ateliers de salsa, des expositions de peinture et de photographie, des spectacles de danse et de musique, et plus encore, ça débute samedi à midi au parc Hastings.
Que dites-vous du cinéma sous les étoiles? Le parc René Goupil, cette fois-ci, présente Paddington, le film là, avec l'ours sympathique qui les aventures se déroulent à Londres. C'est vraiment très drôle, c'est un film familial. C'est le 2 août à 20h30, c'est un film de Paul King. Apportez vos chaises et vos couvertes.
Le comédien et acteur Kevin Hart ne cesse de nous faire rire depuis ses débuts au Comedy Central aux États-Unis. Il devient une figure incontournable de l'humour et cumule les rôles au grand écran. Déjà venu à Montréal au festival Just for Laughs, il fait un retour en grand au Centre Bell et dimanche, vous pouvez le voir à 20h au Centre Bell justement.
C'est sûr, voyager, ça demande beaucoup de ressources, hein, peut-être avoir une voiture, hein, parce que le territoire du Québec est grand, même si vous voulez outrepasser les frontières. Eh bien, c'est possible de voyager grâce à la lecture. Eh bien oui, il y a des livres dans la rue. Vous pouvez rassembler vos enfants âgés de 4 à 12 ans. Et les animateurs de Livres dans la rue vous attendent au parc Howard pour une aventure extraordinaire dans le monde des livres. C'est jusqu'au 14 août, les jeudis, de 17h30 à 19h30, et c'est gratuit. C'est déjà terminé pour l'émission. Je remercie Geneviève Vignery à la co-animation.
Jennifer Vignery et Geneviève Patterson. T'as fait un mix entre nous deux.
Ah, non.
C'est parce que Geneviève est partie un petit peu plus tôt. Mais
oui. Bon. Et merci aussi Rémi Hermoso à la console. Demain soir, vous pourrez voir les États-Unis performer leur feu d'artifice. Ça s'appelle Les saisons de la vie. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition de Kiosque Magazine.
Au revoir et bon week-end.